Salut tout le monde. Aujourd'hui dans Starting Block, Radio Campus vous propose de remonter le temps de quelques semaines et de vous replonger dans les coulisses du festival étudiant porté par le Crous, Les Campulsations. Organisé à Bordeaux, Les Campulsations ont vu plusieurs projets musicaux se produire sur la grande scène érigée pour l'occasion. Radio Campus a pu interviewer la majorité des artistes invités comme Amandine, Liamoun et JER, mais ce sont Holkan et la Vipère Rouge, Roman Santarelli et Jewel Hussein qui vont passer un moment avec vous dans ce Starting Block. Jewel Hussein, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous sur Les Campulsations 2025 où tu te produis. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Toi, tu fais du rap.
Yes, exact.
En 2021, tu sors l'EP Mode Difficile, suivi de Season Pass.
Ouais, exact, ouais.
T'as déverrouillé quel succès dans cette aventure et ça représentait quoi ce mode difficile? Pourquoi avoir choisi ce mode pour te lancer?
C'est une excellente question. Ça va me permettre de faire une petite rétrospective parce que, en fait, à ce moment-là, je travaillais en tant que de vendeur de chaussures à. Où est-ce que j'étais? À Citadium. J'étais à Citadium à ce moment-là. Et c'était le taf alimentaire qui me faisait légèrement chier, légèrement. Mais et du coup, c'était le mode difficile parce qu'à ce moment-là, je devais jongler entre pas mal de choses, mes responsabilités de père, mais aussi le taf alimentaire et mon envie d'être un artiste à plein temps. Donc le succès, entre guillemets, que j'ai débloqué à ce moment-là, c'est de pouvoir arrêter de travailler chez Citadium et de me lancer pleinement... Dans la musique, parce que juste après avoir sorti cette EP, on est parti en tournée pendant presque pendant 2 ans et demi. Ouais.
Aujourd'hui, faire de la musique, c'est devenu beaucoup plus accessible grâce à Internet notamment. Mais du coup, ça fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui sortent leur musique sur Internet, sur les réseaux, sur les sites de streaming. Toi, est-ce que c'est une donnée que tu as pris en compte? Penser à comment te démarquer, comment exister dans ce paysage et comment tu abordes la notion de visibilité en tant qu'artiste aujourd'hui?
Alors oui, effectivement, il y a de plus en plus de monde et j'ai l'impression même que tu vois, les gars s'y mettent et puis deviennent entre guillemets viraux très rapidement au bout de 2 ans, 3 ans peut-être, tu vois, les gars arrivent à blow sur les réseaux sociaux et tout, et c'est très bien comme ça. Pour être honnête, je me suis jamais dit tiens, comment on va faire pour se démarquer, étant donné déjà que je fais cette musique depuis 15 ans maintenant, donc tu vois, je me suis pas posé la question, je suis arrivé là, il n'y était pas, donc je me suis pas dit oh, comment je vais faire pour esquiver des gars qui viennent d'arriver. Alors oui, ils sont déjà plus connus que moi probablement, mais il y a des oreilles pour tous aujourd'hui. Si on a multiplié les artistes, je pense qu'on a aussi multiplié les auditeurs, donc à partir de là, chacun aura sa niche, hein, y a pas de problème. Tu seras écouté par 10 000, lui 10 000, moi 2 000, mais ça marche très bien comme ça, tu vois. Ouais.
Comment justement t'as fait pour toucher et fidéliser ton public?
Eh bien, paradoxalement, c'est en étant le plus égoïste possible, j'ai l'impression, parce que ma musique ne parle que de moi. Je n'ai pas de musique à proprement parler fédératrice qui utilise beaucoup le « on ». Tu vois, c'est beaucoup le jeu, mais n'étant qu'un simple être humain, je pense qu'en parlant de moi, je parle des autres aussi. Je ne vis pas quelque chose d'extraordinaire, donc il y a forcément quelqu'un pour se reconnaître dans ce que je raconte, et par effet boule de neige, ça amène du monde et du monde. Ouais, on n'est pas seul.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rapport à la scène vis-à-vis de ta musique et ton rapport avec le public en général?
Yes, Je suis très exigeant avec moi-même, scéniquement. J'ai très, très longtemps mal supporté la pression qui allait avec le fait de monter sur scène. Parce qu'effectivement, je suis très exigeant avec moi-même et donc ça me met énormément de pression. Et une heure avant un concert, il ne faut plus me parler et tout ça parce que je suis littéralement les yeux dans le vide, ultra concentré et tout, mais parce que j'ai à cœur d'offrir au public quelque chose de grand. Je pars du principe que s'ils se sont déplacés là, c'est pour voir c'est pour voir quelque chose, pour se rendre compte si oui ou non ce qu'ils auront ressenti sur le disque était réel ou pas, si l'expérience pouvait se prolonger. Et moi, je suis là pour ça, donc je dois faire de mon mieux, quoi.
Ouais. Mais tu te mets pas trop de pression, justement ?
Si, probablement, mais je pense que c'est ce que je dois faire pour être un minimum bon, en fait. J'ai l'impression que, disons que à l'échelle mondiale, il y a une barre qui est placée juste ici. Et ben, si je veux être à peu près là, et ben, il faut que je me mette cette pression. Ouais.
Et si tu atteins la barre, après il y a une barre supplémentaire ou
Si j'atteins la barre, je deviens la barre. je deviens la barre. Je sais pas ce qui se passera. Je pense que, vu ma mentalité, je me dirai jamais que j'ai atteint la barre. Donc on verra bien à ce moment-là. Mais encore une fois, je pense que c'est un mal nécessaire.
À quoi tu penses quand tu as les yeux dans le vide pendant 7 heures avant la scène ?
Je pense à est-ce que je vais me foirer ? Est-ce que je vais tomber ? Tiens, faut que je fasse attention à pas tomber. Est-ce que mon micro, si je le mets trop près des enceintes, est-ce qu'il va pas y avoir un Larsen ? Est-ce que je pense en fait à tout ça, toutes les éventuelles choses qui pourraient mal se passer et qui en fait n'arrivent absolument jamais, mais qui me terrifient quand même.
Pour revenir sur les Camp Pulsation, c'est un public essentiellement étudiant qu'on attend pendant ce festival. Toi, tu as parlé de jongler entre ton job alimentaire et ta passion. Ouais. Est-ce que tu as un ou des conseils pour des étudiants qui peuvent être dans une situation similaire ou qui sont obligés de travailler à côté de leurs études, peut-être qui hésitent aussi à se lancer, à suivre leur cœur, leur passion? Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces étudiants-là?
Alors à ces étudiants, je leur dirais qu'ils ils sont d'une génération pleine d'opportunités, et donc à partir de là, je leur conseillerais de se prioriser. Ils sont sûrement le Roland d'années passées qui leur dictait de « alors il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, et ensuite ça, et puis là, tu meurs, et puis c'est bon, t'as fini. » Tu vois, et ben, vous n'avez plus à le faire. Vous n'avez clairement plus à le faire parce qu'il y a énormément d'opportunités aujourd'hui qui vous permettraient d'aller faire essayer ci, essayer ça. Et puis si toutefois, vraiment, c'était pas le bon chemin, et ben tu retombes sur le droit chemin, entre guillemets. Tu retombes dedans, il n'y aura aucun problème. Ça embauche là. Tu vois ce que je veux dire ? Tu trouveras toujours un taf qui te remettra dans ce droit chemin. Mais si tu sens que tu es un temps soit peu rêveur et que tu as envie de tenter quelque chose, tente ce quelque chose.
Tout de suite, on écoute « Où les garçons grandissent » de Jewel Hossein.
Je crois que j'ai enfin pu tenir une promesse. À chaque fois que je drop, je ramène un yo les vols. Pour le reste, je crois pas qu'on progresse. Zone de turbulence, les anges au-dessus de ma tête annulent les vols. Tu trouves du liquide quand t'as glissé. À 17 piges, t'as fait au McDo. Et j'allais deux fois moins au lycée, j'en avais ma dose. La première paye, tu planes au-dessus des astres. Je voulais pas connaître l'amour, je voulais juste des sables et du matos. Une existence vaine, quand t'as jamais compté sur autre chose que sur les liasses. Mais j'étais sûr de moi comme les Kanye West. J'étais sûr de moi comme l'était le daron des sœurs Williams. J'y pensais pas avant. Mais je trouverais même pas ça flatteur d'être un roi sans couronne. Tu trouverais pas bizarre d'être un riche sans argent. Cette fois c'est tout pour l'or. Et je perds du temps quand j'essaye de leur prouver que j'existe. J'ai plus l'âge de leur demander un de ces jours, faudrait qu'on l'exige. Je reste tendre avec mon fils. Je reste dur avec les autres comme Denzel Washington dans Fences. Et ça m'a valu cette douleur au torse. Avec elle j'aurais peut-être pu viser 20. Je me suis bêtement contenté d'un 14. Je lisais pas la notice. Les cœurs subissent quand t'as grandi, où les garçons grandissent. Où les garçons grandissent. Où les garçons grandissent. Où les garçons grandissent. Où les garçons grandissent.
On a tous ces mots à la bouche. Mettre la daronne à l'abri. Comme si on s'était réveillé après un long sommeil bordé d'ingratitude. Pile au moment où t'as compris que ça n'a pas dû être facile d'élever ton cul, tu t'es mis à croire que c'est avec tout l'or du monde que tu pourrais lui rendre ce qu'elle t'a donné. Alors que personne t'a rien demandé. Et t'oublies l'essentiel. Tu portes ta croix. Les cœurs subissent.
Où les garçons grandissent. Yeah. Où les garçons grandissent.
cœurs subissent quand t'as grandi ou les garçons grandissent. Où les garçons grandissent. Où les garçons grandissent.
On est présent sur l'édition 2025 du Festival des Campulsations organisé par le Crous. À nos micros, on est avec Olcan et la Vipère Rouge. Salut à tous les deux.
Salut à tous.
Alors avec vous, c'est un croisement d'influences qui nous attend. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre musique ? On va rentrer dans les détails parce qu'il y a plein de couches à analyser, à décortiquer.
Il y a pas mal de choses à dire effectivement. Olcan, t'es prêt ?
Ouais, je suis prêt.
Pour répondre à cette question ?
Je suis prêt pour te laisser répondre à cette question.
Notre musique, on aime bien dire que, pour englober un maximum de choses, de dire que c'est de l'électro méditerranéenne, parce que le terme oriental est faux d'un point de vue stylistique et n'est pas assez représentatif aussi de peut-être la richesse un peu plus grande musicale qu'on peut avoir comme influence, que ça peut être la Grèce, la Turquie, le Moyen-Orient ou même l'Afrique du Nord. Donc on va dire électro-méditerranéenne, mais on aime bien aussi associer ça à la danse et à un côté loubar en français. Donc voilà, on va essayer de faire une petite compote avec tout ça, mais c'est à peu près l'idée quoi. T'en penses quoi mon pote?
Je confirme.
C'est bon, c'est
on va faire une petite popote avec tout ça.
Le côté loubar, c'est le tien Mathis, donc la Vipère Rouge, parce que toi je crois que t'avais un bagage plutôt punk avant.
Prison, sortie de prison, repris de justice.
Enfin plutôt, oui c'est vrai parce que avec Olcan, il y a plusieurs années, on a monté un projet qui s'appelle Vipère Sucré Salé, qui existe toujours. On est avec d'autres instrumentistes, des copains à moi qui sont sur Lyon et Romain. Donc voilà, on était plutôt dans la branche rock, post-punk, etc., voire métal. J'ai rejoint le projet il y a 3 ans maintenant, celui d'Olcan, qui avait déjà dessiné les grandes directions de l'électro-oriental, avec des guillemets méditerranéennes. Je suis arrivé avec un bagage beaucoup plus rock dans le projet. Et c'est ce qui a l'air de fonctionner.
Toi, Olcan, est-ce que tu peux nous parler de tout ton bagage musical, toute ton identité ?
Moi, j'ai eu des groupes de rock aussi avec Mathis avant ça. Après ça, j'ai monté un live électro avec un autre artiste qui s'appelle Yarl Flamar. Et on a fait un live à deux pendant 5 ans, justement, où on a commencé à intégrer des instruments comme le saz, des percussions du Maghreb et du monde arabe. On a arrêté de travailler ensemble. Mathis, il était au RSA, il avait rien à faire, donc il avait besoin de gratter ça en intermittence, du coup il est venu,
c'est ça.
Il est revenu rejoindre le projet.
Je lui ai demandé à Olcan est-ce que je pouvais venir dans son projet, il m'a dit oui, et au moment d'arriver, on avait déjà une tournée qui était prête, et il a fallu monter un live en un mois et demi, même pas, et c'est allé assez vite, et le projet était lancé très très rapidement. Donc ça a été aussi beaucoup de challenges au début pour essayer de comprendre ce qui se passait artistiquement, techniquement, gérer des machines que je connaissais pas. De base je suis guitariste, je deviens chanteur, je fais de la percussion, je gère des machines électro, j'étais pas du tout là-dedans. Mais grâce à mon pote Olcan, j'ai su m'intégrer au projet, non ?
Oui, ça va, maintenant c'est bien. Ouais.
C'est bon maintenant, c'est bon, c'est géré.
Avec Olcan et la Vipère Rouge, il y a du chant, des synthés et pas mal d'instruments atypiques. Olcan, t'as cité le saz. Tu peux nous expliquer ce que c'est ? Puis c'est pas le seul instrument qu'on retrouve.
Le saz, c'est un instrument à cordes turc. Le mien, c'est un saz électrique. Donc ça ressemble un petit peu à... Ça ressemble à une guitare électrique avec une forme un peu plus atypique, avec un manche très fin et plus long qu'une guitare et un corps un peu arrondi comme un oud. Le oud, c'est un instrument qui est, je pense, c'est l'instrument, entre gros guillemets, oriental, qui est le plus connu, je pense, en Europe. Donc ça, faut imaginer un oud en plus petit et plus long, quoi.
À travers votre nouvelle EP, donc Hyper Moknesh, je sais pas si je le
prononce. Hyper Moknesh, ouais.
Hyper Moknesh, ouais. On trouve du bouzouki, qui est un instrument grec. Hein.
Ouais, c'est ça. C'est un instrument grec qui ressemble un peu au saz acoustique, pour le coup. Mais ça ressemble visuellement, ça ressemble beaucoup au saz, quand même.
Comment est-ce que vous dosez partie électro et musique traditionnelle ?
On construit nos morceaux souvent avec des bases électro et la partie instrument traditionnel, ça vient alimenté par les mélodies, par la ponctuation avec des percussions en fait assez naturellement. C'est pas le traditionnel, c'est pas au centre de la musique, c'est quelque chose qui va... on va arranger notre musique avec des éléments traditionnels, je crois.
Par exemple, dans la voix... C'est pas du tout un élément fort, enfin c'est pas quelque chose de traditionnel, on va pas retrouver cet aspect-là en tout cas dans la voix. Mais effectivement, comme disait Olcan, ça va être la base est électro, et on va rajouter des influences un petit peu par les instruments qu'on utilise, la zurna ou le saz par exemple, comme une influence qui va donner
le côté oriental. Mais voilà, effectivement, nous, de base, on fait pas de la musique traditionnelle d'un pays en particulier. On s'inspire plutôt des instruments qu'on utilise dans la musique comme plutôt des mélodies, pour le coup.
Quel est votre rapport à la scène en général ?
Moi, je préfère la scène que le studio, en vrai. C'est le moment que je préfère dans la musique, pour le coup. Ça permet d'essayer de confronter tes morceaux aux gens, en fait. Parce que des fois, il y a des trucs... Des fois, tu peux imaginer que des morceaux sont... Enfin, tu les trouves vraiment trop bien, t'as l'impression que ça a trop marché, et en fait tu les confrontes au public et non. Et inversement, il y a des morceaux auxquels tu crois pas, et tu les joues devant des gens, et en fait les gens sont hyper réceptifs. Donc ça permet d'avoir ce test-là, et de prendre beaucoup de plaisir. Nous aussi, moi je kiffe trop faire la scène, et voilà.
En fait, il y a une constante évolution, alors qu'un projet, par exemple, si tu fais un album, à un moment tu figes, il est fini, et tu passes à un autre projet, alors que là c'est vraiment une continuité permanente. Tu rajoutes des nouveaux morceaux. Par exemple, il y a quelques semaines, on était en résidence. On a travaillé du coaching scénique avec Thomas Blancard, qui était incroyable. On a eu vraiment une grosse révélation sur le rapport à la scène. Notre rapport a vraiment changé grâce à cette résidence. On s'est dit, putain, le placement, la gestion de l'énergie et tout. Et donc, on apprend constamment sur scène aussi. Et on voit la formule évoluer à chaque concert. On apprend quelque chose, on se dit « Ah tiens, on changerait bien, l'intro elle est trop chiante, ce morceau il va mieux à la place d'un autre. » Donc ça, c'est vraiment intéressant de construire le meilleur live possible. Il y a toujours quelque chose à apprendre. C'est comme un jeu de rôle un peu infini où tu grandis et t'as des nouvelles compétences, des capacités. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment... Et puis chaque public est différent et à chaque fois c'est des belles surprises. Donc c'est vraiment chouette aussi de voir ça.
Holkan et la Vipère Rouge, on peut vous écouter sur toutes les plateformes de streaming avec Bassville et Hyper Mocknesh. C'est quoi le meilleur moment ou le meilleur contexte pour écouter ce dernier EP ? Faut être obligatoirement à bord d'une Renault Gordini ?
Eh bien, tu dirais quoi, Holkan ?
De préférence dans une Renault Gordini.
Dans
ouais.
Une Renault Gordini. Une Renault pour faire plus simple.
C'est ouais, un peu ça englobe plus de modèles. Ouais.
Ce sera plus
Clio,
simple.
Clio, par exemple.
Une Twingo, ça
une
va.
Twingo, voilà. Une Twingo, ça marche
ouais,
aussi.
Ça va, on peut
et une
partout,
Renault, hein, pas Peugeot, quoi. Sinon, ça marche plus.
Ah mince, je peux pas l'écouter. Voilà.
Un Kangoo. Un Kangoo, c'est
un
bon.
Un Kangoo.
Voilà.
Allez, un petit tour en Renault Gordini avec Holkan et la Vipère Rouge.
Je suis dans ma Renault, les pneus qui fument. Je prends le virage Monte Carlo. Je le rattrape au lasso. Je joins qui parfume. Pied au plancher, 40 chevaux. Je me laisse aller par l'ivresse. Virage serré. Une puissance de Mercedes. We'll be right back.
tournée sur l'édition 2025 du Festival des Campulsations du Crous. Et à notre micro, tout de suite, on est avec Roman Santarelli. Salut Roman.
Salut Radio Campus.
Bah, très content de t'avoir à nos micros. Cette interview, elle a lieu le 26 septembre 2025. C'est le jour de sortie de ton nouvel album, OK KO. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur cet album?
Eh ben, c'est un album de 14 titres. Je l'ai composé ces deux dernières années, un peu sur la deuxième partie de tournée de Cosmo Safari, qui était le premier album. Et ouais, je pense que c'est un album où je me livre quand même un peu de manière personnelle. Il y a quand même plus de voix, je prends le mic sur scène même, genre ça c'est un peu... Ça a été de grands moments de frayeur, tu vois, mais... C'est un album qui est assez juste au sens mature, mais pas au sens mature, tu vois, au sens où il me représente bien quand même. Cosmo Safari, il y avait que ma partie lumineuse. Au KKO, il y a quand même un peu plus mes parts d'ombre, on va dire.
Comment est-ce que tu as réussi à trouver cette justesse?
C'est un peu les épreuves de vie. Forcément, j'ai grandi. Le monde va pas très bien, hein, désolé, mais ça s'est nourri quand même de... Ouais, c'est quand même intimement lié aussi à ça. Moi, j'ai eu notamment des grosses périodes d'éco-anxiété assez fortes. Ça se traduisait, c'est toujours le cas, hein, tu vois, dans du stress de la vie de tous les jours, dans des cauchemars de catastrophes naturelles et tout. Enfin, y a quand même cette thématique-là qui transpire un peu dans l'album. Donc ouais, OK KO raconte un peu tout ça.
Coïncidence ou pas que tu te produises le même jour que la sortie de ton album?
Je suis trop contente parce que c'est pas fait exprès. J'aurais pu ne pas être avec mon équipe, être chez moi tranquille un vendredi soir, ce qui aurait été sympa aussi, mais non, là, le fait de jouer devant des gens, d'être avec mon équipe avec qui il y a une super osmose depuis le début de la tournée, ça c'est hyper important pour moi, donc trop contente. Et en plus, là, c'est même la première fois de ma vie qu'on fait 3 dates d'affilée là. C'est déjà arrivé 2, mais 3 d'affilée, j'avoue, c'est un peu costaud. Hier, on était sur les Campulsations de Pau. Et demain, on est du côté de Saint-Étienne, au musée de la mine. Donc non, ouais, grosse semaine assez intense.
T'as parlé d'éco-anxiété. Tout ça, ça peut être des freins à la création. Comment est-ce que tu l'as surmonté?
Ouais, complètement. Hein. D'abord, ça a été des freins. Hein. C'est pas tout de suite que ça devient inspirant et tout ça. Il y a eu une grosse période de page blanche quand même, hein, entre les deux, qui a été assez vertigineuse quand même. Et je pense que... Enfin, là où je me suis mis la pression, c'est que j'avais l'impression que le deuxième album, il allait être pondu comme ça en 3 semaines, alors que bah non, pas du tout. Tu dois digérer tes épreuves de vie, tu dois avancer, tu dois même passer des semaines où tu ne fais pas du tout de musique, en fait, tu vois. Enfin, tu peux pas être tout le temps productif, etc. Et je me suis allée me nourrir de plein d'autres choses. En fait, même ces 2 dernières années, j'ai écouté assez peu de musique électronique même. J'ai écouté par contre à fond Idols. Ça a été vraiment un groupe que j'ai saigné, que j'ai écouté à fond et qui m'a fait vraiment du bien dans l'énergie que ça transmettait, tu vois. Beaucoup de disco, beaucoup de funk. Je me suis grave rapprochée du milieu de la danse du walking à Lyon, et qui est intimement lié avec le fait que sur cette tournée, du coup, y a un duo de danseurs avec moi et de la scénographie fait maison et tout et tout. Du coup, non, il y a eu quand même grosse période de page blanche et c'est pas tout de suite, c'est pas évident en fait, tu vois. Genre, il y a eu pas mal de fragments comme ça, d'idées, de morceaux, etc. Et je pense que Cosmo Safari, comme c'était le premier album, tu le composes un peu depuis toujours sans t'en rendre compte en fait. Enfin, tu vois, il y avait des morceaux qui étaient des brouillons de la première heure, alors que au KKO, bah forcément, une fois que tu termines le premier, il n'y a plus rien, quoi. Enfin, Tout est vierge et tout est à créer. Donc ouais, non, c'était assez vertigineux. Et comme tu l'as fait une première fois, la deuxième fois, t'es conscient de la montagne que c'est. Donc c'était un peu... ouais, c'était un sacré truc quand même.
Dans ce nouveau set, il y a un aspect interdisciplinaire avec de la danse notamment. Est-ce que ça, c'était quelque chose qui te faisait envie dès le départ, quand tu t'es lancé dans ton projet musical?
Ça s'est passé en plusieurs temps. En gros, il y a eu d'abord cette période un peu plus à titre personnel, sans conscientiser le fait que je voulais ramener de la danse, etc. dans ce live. Ça a été d'abord une grosse claque où toute l'année 2023-2024, je me rendais à fond en battle sur Lyon pour le coup, sur Paris parfois, pour aller voir des danseurs walking s'affronter, faire des performances et tout et tout. Moi, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. J'ai pris une grosse claque là-dedans, notamment parce que c'est aussi des espaces qui m'ont fait carrément du bien et dont j'avais besoin depuis longtemps, mais que je connaissais pas, qui sont des espaces de liberté, des espaces queer où chacun est un peu dans l'émancipation, où c'est vraiment des safe places. Et du coup, là où ça m'a nourrie, c'est que j'ai été fascinée de voir des artistes, danseurs, danseuses qui vivaient la même passion que moi, mais donc de la musique, mais pas du tout de la même manière, pas du tout instrumentiste, mais là complètement dans le corps, complètement dans l'extériorisation, vraiment dans le physique, quoi. Là, on n'est plus du tout dans le cérébral, on est vraiment dans le physique. Et ça m'a mis... j'ai pris une grosse claque à l'époque. Du coup, j'ai découvert les artistes Lavanda et Karma, qui sont des Lyonnais et qui sont les chorégraphes interprètes sur le live actuellement, depuis juin, quoi. Ça fait un an qu'on a bossé ensemble et tout. Donc ça a été la première phase un peu grosse claque. La deuxième phase, c'est qu'une fois que tu digères un peu tout ça et que tu prends du recul et de la hauteur, je me suis dit, il faut absolument que ça se retrouve sur scène. Et la manière dont je vais délivrer à mon public ou aux gens qui vont découvrir et tout, j'ai trop envie qu'ils retrouvent l'énergie que moi j'ai vécue quand je me rendais dans ces lieux et que j'étais complètement fascinée et dans la découverte, quoi. Donc ça me paraissait pertinent, et même plus que pertinent. En fait, c'était évident de retrouver ce truc-là sur scène pour redélivrer cette énergie telle que moi je l'avais vécue. Je pense que j'étais un peu sur la fin d'un cycle où être tout seul sur scène, c'est cool, mais ça a ses petites limites quand même, tu vois. Et du coup, maintenant, on est trois et je kiffe trop.
On se quitte avec le titre Splendiose de Roman Santarelli.